Bonjour frères et sœurs, très joyeux sabbat à vous tous. J'espère que vous allez bien et je suis heureux d'avoir cette occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Nous allons parler d'une croyance fondamentale de l'Église de Dieu Association Mondiale. Il est très important d'être bien fondé sur les fondements de la Bible, les doctrines fondamentales de l'Église. La vie des chrétiens fidèles à la Bible tourne autour des jours saints. Notre semaine est organisée pour respecter le sabbat, le jour saint hebdomadaire, et notre année, en quelque sorte, est réglementée ou planifiée autour des fêtes annuelles. Nous planifions des semaines, voire des mois à l'avance, pour pouvoir célébrer convenablement ces fêtes annuelles, et deux d'entre elles, en particulier, nécessitent beaucoup de préparation. La fête des tabernacles nécessite de la préparation physique, à cause du fait que nous ne la célébrons pas chez nous. Nous nous déplaçons, nous habitons des habitations temporaires. Nous allons dans le lieu que l'Éternel aura choisi pour y placer son nom, comme dit la Bible. L'autre fête qui nécessite une certaine préparation, c'est une préparation d'ordre spirituel. C'est la Pâque. Car la Bible insiste sur le fait que nous devons nous examiner et nous préparer spirituellement à l'avance de la célébration de cette fête, afin de pouvoir prendre la Pâque de manière digne, reconnaissant de sa signification transcendante. Maintenant, cette année 2021, nous sommes maintenant à 12 semaines de la Pâque. Et il se trouve que la prochaine croyance fondamentale dans la série que je suis en train d'aborder avec vous concerne justement la Pâque, car la Pâque fait partie des croyances fondamentales de l'Église de Dieu, qui n'en compte que 20. Nous n'avons que 20 croyances fondamentales. C'est dire que la compréhension de la Pâque dans la Bible est vraiment très importante, vitale pour nous. C'est vital à cause de la confusion qui existe dans le christianisme traditionnel, qui a décidé de remplacer la Pâque, que Jésus a ordonné à ses disciples de célébrer, par la fête des Pâques, inventée à partir d'éléments païens et à partir d'une mauvaise compréhension des Écritures. On a remplacé une partie de la Pâque par ce qu'on appelle l'Eucharistie ou la Sainte Cène selon la fraternité, et le repas du Seigneur pour d'autres, célébré 4 fois par année, tous les jours, chaque dimanche, quand on veut, alors que ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Toutes ces pratiques, en fait, contribuent à voiler des vérités importantes, des facettes importantes de la Pâque. Alors, passons maintenant à la lecture de cette croyance fondamentale. Et ensuite, comme nous le faisons d'habitude, nous allons la prendre phrase par phrase pour nous demander pourquoi est-ce que cette phrase est exactement comme ça. Et je vais essayer de décortiquer ça pour nous tous, pour que nous puissions bien saisir la signification de cette croyance fondamentale. Numéro 12, la Pâque. La Pâque est à observer dans la soirée au début du 14 Nissan, entre parenthèses Abib, en conformité avec le calendrier hébraïque préservé par les Juifs. Les symboles de la Pâque de la Nouvelle Alliance, instituée par Jésus-Christ dans la nuit avant sa mort, le lavement des pieds, le pain sans levain et le vin font partie de ce service religieux. Les chrétiens suivent l'enseignement et l'exemple de Jésus-Christ en observant la Pâque chaque année comme mémorial de sa mort. Maintenant, il y a 3 longues phrases que nous allons prendre une par une et, comme j'ai dit, nous allons les décortiquer. Pourquoi est-ce que chaque aspect de cette croyance fondamentale s'y trouve? Alors, la première phrase, c'était « La Pâque est à observer dans la soirée au début du 14 Nissan, entre parenthèses Abib, en conformité avec le calendrier hébraïque préservé par les Juifs. » Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 2 noms pour le mois? Il y a Nissan et il y a Abib. En fait, ça représente le même mois, le premier mois dans l'année. Abib était un nom utilisé en Canaan pour ce mois. Et à un moment donné, nous ne savons pas exactement quand, mais quand Les Juifs sont revenus de la captivité en Babylone à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Ils ont emprunté le nom de ce mois de l'Acadien. Hélas, le nom dans cette langue-là, c'était Nissan. Alors, on trouve les deux dans la Bible. Lisons Exode chapitre 12, verset 1. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Nous allons lire tout le chapitre, en fait, pour nous rappeler ce que la Bible dit à propos de la Pâque. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos ricins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui ne vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Alors Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez, « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël et en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. » Verset 29. « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de leur envoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir au pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circoncieras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. » Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. » Et nous voyons là, déjà, ça nous fait penser à certaines choses qui sont arrivées à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'os brisé. « Vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de la maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour le faire. Et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. » Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Voilà l'histoire de la première Pâque. Et maintenant, il y a beaucoup d'explications dans le Nouveau Testament pour montrer qu'en fait, en donnant ces instructions physiques aux Israélites, Dieu pensait déjà à ce qu'allait accomplir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, quand il viendra 1500 ans, 1400 ans après. Voilà l'histoire de la Pâque. Et voilà pourquoi les Israélites devaient la célébrer. Maintenant, nous avons la Pâque de la Nouvelle Alliance qui est révélée par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous en parlerons tout à l'heure. Dans cette première phrase, la Pâque était observée dans la soirée au début du 14 Nissan, Abib, en conformité avec le calendrier hébraïque préservé par les Juifs. Pourquoi ce bout de phrase sur le bon calendrier à utiliser? Parce que c'est une question qui se pose. Quel calendrier devons-nous utiliser pour calculer le moment, le jour, quand la Pâque doit être célébrée? Eh bien, pour célébrer les fêtes de l'Éternel décrites dans la Bible, dans Lévitique 23, à partir du verset 2, il faut savoir quand elles ont lieu. Quand est-ce que ces fêtes auront lieu? Et pour ce faire, c'est important de savoir quel calendrier on doit utiliser. Maintenant, je vais vous tracer brièvement une histoire ou un aperçu de quelques calendriers bien connus. Et nous allons les comparer avec le calendrier sacré hébraïque. On se pose rarement la question de savoir quel calendrier utiliser. Pourtant, à travers l'histoire, c'est une question qui s'est souvent posée et sur laquelle il a été difficile de s'accorder. Notre calendrier dans l'Occident, notre calendrier actuel, date de 1582 et a été mis en application par le pape Grégoire XIII. Ce dernier l'avait ordonné afin de corriger les erreurs du calendrier julien, établi en l'an 45 avant notre ère, par Jules César. Pendant des siècles, de nombreux pays protestants ont refusé d'adopter le calendrier grégorien, puisque c'était imposé par un catholique, par un pape, et quand l'Angleterre, en 1752, adopta finalement ce dernier, son calendrier julien avait 12 jours de retard par rapport aux saisons. Encore aujourd'hui, de nombreuses églises orthodoxes refusent d'accepter le calendrier grégorien et se servent toujours du calendrier julien, qui a maintenant 13 jours de retard. Des calendriers juliens et grégoriens sont des calendriers solaires, dans ce sens qu'ils s'appuient sur les révolutions autour du soleil. En revanche, le calendrier musulman est un calendrier lunaire, s'appuyant uniquement sur les cycles de la lune. Ces mois ne sont pas liés aux saisons et peuvent donc varier considérablement par rapport au calendrier grégorien. C'est pourquoi, si vous avez noté, Ramadan, le mois de jeûne musulman, ne coïncide pas avec un mois particulier dans le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, maintenant en vigueur, est donc relativement récent, datant seulement d'un peu plus de 4 siècles, alors que l'histoire de l'homme remonte à environ 6 000 ans. Il va sans dire que ce calendrier n'est pas celui qui était en usage quand Dieu a dit à Moïse « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois », comme il a dit dans Exode 12. Quel est l'objet du calendrier des fêtes divines? Peut-on savoir quel était le calendrier en vigueur lorsque Dieu révéla ses fêtes aux Israélites dans Lévitique 23? En réalité, si on fait une étude sérieuse, on constate que la Bible ne fournit pas suffisamment de détails pour établir tout le calendrier. Mais elle nous dit quand ont lieu les fêtes, selon le calendrier. La Pâque s'observe le 14e jour du premier mois et elle est suivie par la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours après. Le mot hébreu « odès » traduit par « mois » en français, les mois de l'année, est aussi, selon le contexte, traduit par « nouvelle lune ». Donc, les mois commencent aux nouvelles lunes. Ces fêtes divines sont étroitement liées aux saisons. On commençait à moissonner pendant la fête des pains sans levain et on finissait de moissonner à la fin de l'année vers l'époque de la fête des tabernacles. Les fêtes ont lieu à des dates précises. Il importe donc de savoir sur quel calendrier on doit se baser pour savoir quand elles vont tomber. Et ensuite, nous pouvons établir, en comparant les calendriers, on peut savoir quelles sont les dates selon le calendrier grégorien actuel. Ni un calendrier exclusivement solaire, ni un calendrier exclusivement lunaire ne peuvent déterminer ces dates avec précision, les liant aux moissons, comme c'est le cas. Un calendrier solaire correspond presque aux saisons, mais il ne tient pas compte des cycles lunaires, et dont il faut tenir compte pour déterminer les mois bibliques, puisque le calcul des mois est lié à la nouvelle lune. Un calendrier exclusivement lunaire est loin de coïncider avec les saisons, comme nous voyons avec le calendrier musulman. Heureusement, les Juifs ont conservé un calendrier à la fois solaire et lunaire qui coïncide avec les saisons et les moissons. Il est calculé à la fois par les mouvements du soleil et des cycles de la lune. Les deux font partie de ce calcul. Je vous cite maintenant un livre intitulé « L'essence des jours saints, perspicacité des sages juifs » qui est sorti en 1993 par Avram Yaakov Finkel. Le calendrier, le calcul du calendrier a été transmis aux sages par une chaîne ininterrompue remontant à Moïse. Selon les calculs anciens, la période exacte entre une nouvelle lune et la prochaine est de 29 jours, 12 heures et 793 shalekim. Shalekim, c'est un mot qui indique partie d'une heure. Et l'heure, selon ce calendrier ou selon ces calculs, est divisée en 1080 shakelim. En d'autres termes, un mois lunaire a 29,53059 jours. Il est intéressant de noter que selon la NASA, l'administration spatiale américaine, le délai entre une nouvelle lune et la suivante est de 29,53058 jours. Presque la même chose. Très peu de différence. Bien que la NASA a à sa disposition les télescopes les plus avancés et sophistiqués et des ordinateurs, la différence entre les chiffres de la NASA et celui utilisé par Hillel II, qui remonte à plus de 3000 ans, n'est que de 0,000002. Ou alors, dit autrement, 2 millionième d'un jour, calculé sur la période d'un mois. Donc, le calendrier hébraïque est incroyablement fidèle et juste. En plus de cette précision incroyable, la Bible nous dit directement que les Juifs sont les gardiens des oracles de Dieu, qui comprennent les Écritures hébraïques et le calendrier. Paul a en effet précisé dans Romains chapitre 3, verset 2, « Les oracles de Dieu leur ont été confiés. » C'est à eux de préserver les Écritures en hébreu et le calendrier en hébreu. Par conséquent, nous savons, nous nous servons du calendrier hébraïque pour déterminer quand ont lieu les fêtes bibliques d'année en année. Nous publions un calendrier des fêtes bibliques indiquant les dates où elles auront lieu selon le calendrier grégorien, nous faisons le transfert, en vigueur de nos jours. Et ça facilite la possibilité, ça facilite pour tout le monde de pouvoir savoir ce que c'est, quand auront lieu ces fêtes. Donc, nous devons nous servir du bon calendrier. Ça, c'est un élément important de notre croyance fondamentale. Deuxième phrase, maintenant. Les symboles de la Pâque de la Nouvelle Alliance instituée par Jésus-Christ dans la nuit avant sa mort, le lavement des pieds, le pain sans levain et le vin font partie de ce service religieux. La Pâque de la Nouvelle Alliance tombe le même jour que la Pâque de l'Ancienne Alliance, mais Jésus a changé les symboles. Nous ne mangeons pas d'agneau le soir de la Pâque maintenant avec les fines des herbes amères, avec nos sandales aux pieds, etc. Maintenant, depuis la Pâque où Jésus-Christ a institué cette cérémonie, c'est le lavement des pieds, le pain sans levain et le vin. C'est la même fête, c'est le même jour, mais les symboles ont changé. Dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 13, nous avons un récit de cette Pâque ô combien importante, quand Jésus a institué ces nouveaux symboles. Jean chapitre 13, verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 15. Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en est à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé ses pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Ses disciples ont donc l'instruction de se laver les pieds mutuellement, les uns aux autres. Cette instruction est très claire. Pourtant, il n'est pas pratiqué par beaucoup d'églises qui se disent chrétiens aujourd'hui. Ils ne suivent pas vraiment les instructions de Christ. Ils pensent peut organiser mieux les choses que ce que Jésus a dit, mais nous nous efforçons d'obéir à ça à la lettre, comme Jésus l'a dit. Nous nous lavons mutuellement les pieds. Nous retrouvons d'autres détails sur la cérémonie de la Pâque dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17. Matthieu 26, verset 17. Et nous lirons jusqu'au verset 30. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Maintenant, parfois, il y a un peu de confusion dans ce verset, parce que c'est appelé le premier jour de la fête des pains sans levain, qui ne commence que le jour après la Pâque. Et certains se sont imaginés que c'était le même jour, et en fait, ce n'est pas le cas. Tout comme pour la fête des tabernacles, nous ne mentionnons pas toujours le dernier grand jour, nous allons à la fête des tabernacles. Nous allons également au dernier grand jour, mais on résume toute la période comme la fête des tabernacles. Et les Juifs avaient l'habitude de faire cela pour la Pâque, on pouvait appeler toute la période de la Pâque ou toute la période de la fête des pains sans levain. C'est ça qui explique cette terminologie ici. Verset 18, Jésus répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « C'est celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, ce sont les éléments de la cérémonie de la Pâque clairement établis par les Écritures. Le lavement des pieds, du pain sans levain qui représente son corps brisé, et du vin, un petit peu de vin qui représente son sang versé. Attardons-nous un instant sur la question... Que veut dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang » ? Ça peut sembler pas très difficile, mais il y a eu de gros débats, il y a eu même des morts à cause de cette question-là. Les catholiques, pour résumer, croient dans la transsubstantiation, c'est-à-dire que les éléments, le vin et le pain, sont changés métaphysiquement pour devenir littéralement le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, mais tout en conservant les propriétés physiques du pain et du vin. Autrement dit, On voit pas les différences entre ce qui a été béni, entre guillemets, et ce qui n'a pas. Mais ici, c'est vraiment le corps et le sang de Christ, et ici, c'est du pain et du vin. Mais on peut pas les distinguer. Ça, c'est la transsubstantiation. Selon Martin Luther, il a formulé une autre doctrine, la consubstantiation. Ça veut dire que, selon lui, Christ est littéralement présent dans le pain et le vin, mais les éléments eux-mêmes n'ont pas été transformés littéralement dans son corps et dans son sang. On dit que Christ est dans, avec et sous ces deux éléments. Jean Calvin prenait une autre conception qui est encore plus difficile à comprendre. Je vous laisse le soin de vérifier si vous le voyez. Je ne vais pas prendre le temps de le faire maintenant. Alors, nous devons nous poser une question. Si c'était vraiment la chair et le sang de Christ, alors ça veut dire qu'il est offert tous les jours, en offrande, tous les jours, alors que la Bible dit qu'il était offert, s'est offert une seule fois. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 9. Regardons Hébreux chapitre 9, verset 28, Hébreux 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il s'est offert une seule fois, pas chaque dimanche ou tous les jours comme le font certains qui veulent prendre l'Eucharistie, comme disent les catholiques, la Sainte-Cène, comme disent les protestants, etc. Il s'est offert une seule fois. Et pour nous, c'est une preuve supplémentaire que le pain et le vin représentent, sont des symboles du corps et du sang de Jésus-Christ. Et le lavement des pieds symbolise l'attitude d'humilité, de service qu'avait Jésus-Christ. Il était prêt à servir, à se dévêtir de sa divinité, et de se donner sa vie pour la vie des autres. Il servait et il était prêt à mourir. Ça, c'est son attitude d'humilité. Et il nous met dans cette position d'un serviteur ou d'une servante chaque année au moment de la Pâque pour nous rappeler l'importance de garder cette attitude tout au long de l'année. Nous devons avoir la même attitude de service qu'a démontré Jésus-Christ. Le pain est le symbole de son corps brisé. C'est pour nous rappeler son sacrifice. Le vin symbolise son sang versé, le sang qui nous purifie de tout péché, selon 1 Jean chapitre 1, verset 7. Donc les symboles sont simplement des symboles. Et nous ne devons pas croire dans une métaphysique compliquée, c'est symbolique. Voilà tout. Troisième phrase maintenant dans l'énoncé des croyances. Les chrétiens suivent l'enseignement et l'exemple de Jésus-Christ en observant la Pâque chaque année, une fois par année, comme mémorial de sa mort. Dans Luc chapitre 22, nous allons lire un autre passage, un peu plus long que d'habitude, Luc 22. Commençons au verset 1. Luc 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque approchée, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et cette histoire continue, nous le connaissons, nous l'avons déjà lu. Maintenant, au verset 15, il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque, avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et on prit une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire avec eux? Il était en train de prendre la Pâque, qui tombe une fois dans l'année. Voilà. Donc, nous croyons, nous comprenons que la Pâque est observée une fois chaque année, le 14e jour du premier mois selon le calendrier hébraïque. Nous trouvons d'autres symbolismes de la Pâque de l'Ancien Testament avec la Pâque de la Nouvelle Alliance. Il y a plusieurs passages qui font ce lien. Par exemple, Jean chapitre 1, l'Évangile de Jean chapitre 1. Il y a certaines phrases qui sont dans la Bible que nous ne pouvons pas comprendre à moins de savoir ce qui s'est passé en ancien Israël. On a besoin de l'Ancien Testament pour pouvoir comprendre le Nouveau Testament. J'ai acheté une nouvelle Bible et les pages collent ici. Jean chapitre 1, verset 29. Alors c'est Jean-Baptiste qui est en train de baptiser les gens ici, comme il le faisait. Et le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il aurait appelé l'agneau de Dieu Jésus? Parce que c'était en renvoi à ce qui se passait lors de la Pâque en ancien Israël. C'était par le sang d'un agneau qu'on avait la vie sauve. Et c'est par le sang versé de Jésus-Christ que nos péchés peuvent être pardonnés et l'amende de la mort nous est enlevée, puisque nous avons été purifiés. Jésus était l'accomplissement de la cérémonie de la Pâque dans l'Ancien Testament. Et on ne pouvait pas pleinement comprendre. Les deux se complètent. Nous pouvons comprendre les uns et les autres à la lumière de chaque événement mutuellement. Nous trouvons une autre référence à la Pâque dans 1 Corinthiens chapitre 5, qui fait le lien de nouveau entre la Pâque dans l'Ancien Testament et la Pâque de la Nouvelle Alliance. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il est l'accomplissement de ce symbolisme avec les chevreaux et les agneaux dans l'Ancien Testament. Ces animaux devaient mourir et leur sang protégeait les maisons. Et la mort de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu maintenant, nous protège des résultats de nos péchés qui peuvent maintenant être pardonnés, enlevés de notre compte. Et nous pouvons ensuite recevoir le don de la vie éternelle. La vie éternelle que Dieu veut nous donner est un don gratuit, mais nous devons d'abord avoir nos péchés enlevés. Et ça se fait à travers le sang versé de Jésus-Christ. Regardons Romains chapitre 6 aussi, verset 4. Romains chapitre 6. À partir du verset 3, en fait, Romains chapitre 6, verset 3, Paul écrit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Ici, nous voyons par le baptême, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui. Il y a un lien incontournable entre le baptême et l'application de la mort de Christ, son sang versé à nous. Voilà pourquoi la commémoration de la mort de Jésus est limitée aux membres baptisés qui ont passé cette étape. Ils ont fait cet engagement vis-à-vis de Dieu, ils appartiennent à Dieu et le sang versé de Christ a été appliqué à leur compte. Donc, nous réservons la célébration de la Pâque, le pain et le vin, aux membres baptisés. Nous avons également vu qu'une préparation est nécessaire pour la Pâque. Nous devons nous préparer spirituellement à l'avance. Maintenant, c'est toujours bon de faire un état des lieux spirituels à l'approche de n'importe quelle fête de l'Éternel. Mais la Bible souligne particulièrement la préparation pour la Pâque, la commémoration de la mort de notre Seigneur et Sauveur. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » J'ai déjà expliqué ceci dans les messages précédents, mais je veux le souligner encore une fois. Ce passage ne veut pas dire qu'on doit être digne de prendre la Pâque. Personne d'entre nous n'est digne de prendre la Pâque du Seigneur, de prendre la Pâque de la Nouvelle Alliance. Ce qui est marqué, c'est que nous devons prendre la Pâque dignement. La manière de participer à la Pâque doit être digne. Cela suppose une préparation, on doit s'examiner, on doit s'éprouver. Est-ce que je suis toujours engagé? Est-ce que je suis toujours dans la bonne voie? Est-ce que je suis toujours fidèle à Dieu? Est-ce que je suis fidèle à l'engagement que j'ai pris au moment de mon baptême? Et si on trouve qu'il y a des lapsus, c'est le moment de se repentir, demander pardon à Dieu, se mettre, remettre dans la ligne droite et reprendre le bon chemin. C'est un état des lieux spirituel important par lequel nous devons passer chaque année. Donc, je répète, c'est pas que nous devons être dignes, impossible. Et la Bible ne nous donne pas le choix. Décidez si vous vous sentez assez bien pour prendre. Non, la Pâque est une. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pas faites ceci si vous vous estimez en bon état. Ce qu'il nous dit, c'est de nous mettre dans un état de pouvoir prendre la Pâque dignement, de nous éprouver pour être sûr que nous sommes toujours en train de tenir nos engagements. Ça, c'est l'instruction. Préparez-vous, prenez la Pâque. C'est pas prenez la Pâque si vous estimez que vous êtes dans un bon état spirituel pour le faire. Ça, c'est vraiment pas notre choix. Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Et frères et sœurs, à 12 semaines, il n'est pas trop tôt de commencer à penser à la célébration de cette Pâque à venir. Je ne peux pas vous dire encore comment ce sera avec la situation du COVID-19. Est-ce que nous allons pouvoir être ensemble comme nous faisions d'habitude ou est-ce qu'on sera chacun chez soi de nouveau? Peut-être dans certains lieux, on ne pourra pas s'assembler. Nous allons faire de notre mieux pour le faire. C'est possible de prendre la Pâque chez soi. Beaucoup l'ont fait l'année dernière, comme je l'ai fait avec mon épouse. On ne pouvait pas s'assembler. Prions que nous puissions nous assembler pour célébrer la Pâque. Il y a une signification accrue quand nous pouvons être ensemble avec d'autres personnes qui font partie de ce seul pain et qui forment un seul corps. Donc, pensons à cela dans nos prières. Quelques rappels de choses, d'étapes à franchir en se préparant à prendre la Pâque. Voici plusieurs points par lesquels nous pouvons passer. Relire les passages de la Bible qui concernent la Pâque. Nous avons commencé ça aujourd'hui. Relire les passages de la Bible qui concernent la Pâque. Commencer à nous examiner, à nous éprouver. Faire un bilan spirituel. Réfléchir à notre progrès depuis l'année dernière. Quels sont nos points plus forts? Quels sont nos points plus faibles? Comment est-ce qu'on travaille dessus pour renforcer les points faibles? Pour échapper aux tentations qui peuvent nous faire chuter. Un bilan spirituel. Et si nous trouvons un péché tenace dans nos vies, préparons un plan d'attaque. Un plan étape par étape. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire à ce sujet. Je vais éviter telle situation. Je ne vais pas voir ça dans la maison, etc. Préparons un plan d'attaque pour extirper ce péché de nos vies, pour rendre forts les points faibles. Une autre chose à faire, c'est nous repentir sincèrement devant Dieu. Sincèrement dans nos prières, nous vider le cœur, lui parler et lui demander pardon. Nous repentir de nos péchés sincèrement devant Dieu. Et renouveler, en quelque sorte, l'engagement que nous avons pris au moment de notre baptême. Confirmant dans notre esprit, oui, je suis toujours engagé dans ce même chemin, dans cette même voie. Ce sont des choses importantes à faire à l'approche de la Pâque et nous allons entendre d'autres sermons dans les prochaines semaines pour nous aider dans cette préparation. Et là, nous pouvons dire que nous sommes passés le cap du départ maintenant. Il n'est pas trop tôt pour commencer à y penser. La Pâque est vraiment un événement clé dans la vie chrétienne. C'est une ordonnance spirituelle, c'est aussi une ordonnance qui nous remplit de joie. Alors comprenons bien l'enseignement de la Bible, pourquoi c'est une croyance fondamentale de l'Église de Dieu, et préparons-nous pour profiter pleinement de la Pâque cette année.